Alors, frères et sœurs, c'est une joie tout à fait spéciale d'être avec vous pour la troisième soirée. Et ma prière complète et intégrale, c'est que le Seigneur nous dirige. En venant ici en voiture avec Adèle, Élise et Marguerite, j'ai dit, je ne suis pas très bien dans quelle direction je veux aller. Comme toujours, on prépare beaucoup trop de matériel par rapport au temps que nous dans nos disposants, et donc je compte tout à fait sur la direction du Seigneur pour les choix de ce que je ferai. En préambule, ni dans les exposés qui ont précédé, ni dans cet exposé, je m'intéresse, si vous voulez, à faire passer des doctrines. Je vous assure que ce n'est pas mon intérêt premier, ni deuxième, ni troisième. Je m'intéresse d'abord à ce que nous nous réunions autour de la parole de Dieu et que nous rendions compte à la fois de son importance et de sa capacité de nous parler et de nous transformer. Il n'est pas toujours certain que nous ayons, ces convictions en tête. Et s'agissant de l'Apocalypse, je voulais aussi vous faire part de certaines conditions d'approche de lecture de ce livre qui a ses difficultés, mais qui est parole de Dieu, qui a été donné pour que nous le lisions, que nous l'écoutions, que nous l'étudions, pour le mettre en pratique, pour en vivre et pour être transformé. Et troisièmement, je voulais, si vous voulez, démystifier certains mythes. Un, par exemple, de la difficulté ou du caractère illisible et fermé de l'Apocalypse, en disant que ça n'est pas le cas, de remettre en question certaines approches qui ne sont pas du tout justifiées, soit certains qui voudraient, par exemple, limiter l'usage du livre au 1er siècle, ou certains qui choisissent certaines portions en les enlevant de leur contexte et en leur imposant une sorte de lecture littérale en disant on ne peut pas les lire autrement. Et donc j'ai pris beaucoup de temps pour essayer de dire qu'est-ce que l'Apocalypse nous dit quant à son approche même, quant à la manière de la lire. Et c'est pour ça que j'ai pris pas mal de temps pour essayer, si vous voulez, de parler des genres et des contextes anciens. Ça n'est pas faire de l'intellectualisme. Ça n'est pas inviter simplement une élite, si vous voulez, à lire et à étudier l'Apocalypse de cette manière. C'est la manière normale que Dieu a choisie pour nous. C'est la manière normale que Dieu a choisie pour son peuple, de l'écouter à travers sa parole. Et c'est lui qui a, si vous voulez, contextualisé sa parole en choisissant de l'inspirer, de la communiquer de telle ou telle manière. Comme il a choisi les évangiles, il a choisi le livre des actes et le genre du livre des actes, il a choisi le genre des épîtres, comme dans l'Ancien Testament, il a choisi les psaumes ou les proverbes ou le genre prophétique, il a choisi le genre apocalyptique. Et donc je vous invite, si vous voulez, à faire vraiment l'exercice d'essayer de lire et de vous approprier le livre directement. Et donc, c'est un travail de plus longue haleine que simplement donner des clés immédiates ou de formuler des doctrines. Alors, bien sûr, il faut que ces lectures débouchent sur des doctrines, des vérités. Mais ça, c'est le résultat. Donc, ce n'est pas ce qu'on impose sur le texte dès le départ. Et donc, je voudrais continuer avec cet exercice et reprendre une question qui a été posée hier. Et en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit que je n'étais pas, fidèle au principe que j'avais énoncé moi-même. Je vous avais dit que c'était le texte qui devait nous diriger. Et j'ai donné des réponses sans étudier le texte avec vous. Et donc là, je me suis dit, il faut que je corrige. Et que nous revenions donc à l'étude du texte. La question qui concerne les 144 000, c'est aussi une question qui est, pour beaucoup, qui est centrale. Alors, avant d'y arriver, je voudrais la préparer. Et en même temps, comme je dis, ce sont vraiment des clés qui vont ou qui devraient nous ouvrir la lecture de l'Apocalypse parce que nous découvrons une des manières que Jean a choisi de communiquer. Rappelez-vous l'usage de symboles, l'usage de formes littéraires qu'il a choisi et qu'il nous faut nous approprier si nous voulons recevoir son texte. Donc, je vais prendre quelques versets et je vous invite à noter la même forme d'expression de la part de Jean dans tous ces passages. C'est l'usage de la dualité d'entendre et de voir. Il entend et il voit, ou à l'occasion il voit et il entend, des choses différentes, mais il s'agit de la même réalité. D'accord ? Alors, la première occurrence, chapitre 1, des versets 10 à 13, donc dans la toute première présentation, et si vous avez l'écriture avec vous, donc vous pouvez la lire, et sinon, si on peut projeter aussi les textes, on peut le faire. On ne peut pas projeter les textes. D'accord. Alors, chapitre 1, les versets 10 à 13, Jean dit « J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le. » Donc, il entend une voix forte, dit-il. Et il dit « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis. » Donc, la première occurrence, si vous voulez, de cette dualité d'entendre et voir. Et ce qu'il voit, ce n'est pas la voix. Il voit sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Deuxième exemple, au chapitre 4, les versets 1 et 2. « Après cela, je regardais, ou je vis, c'est le même verbe, en fait, j'ai dû utiliser deux traductions différentes, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. » Donc là, c'est un voir, d'abord. Et la première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette et qui me parlait, disait « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver bientôt. » Donc, il entend la voix qui lui annonce ce qui va arriver bientôt. « Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône où je vis un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. » On annonce quelque chose et il voit quelque chose qui est différent. Il s'agit de la même réalité. C'est-à-dire que ce qu'il va voir et ce qu'il va comprendre, c'est l'occupant du trône, donc Dieu, et ce que Dieu va faire, et l'agneau qui est avec lui. Troisième exemple, dans ce même passage, au chapitre 5, l'un des anciens ou l'un des vieillards me dit, ça c'est ce qu'il entend, « Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Voilà donc ce qu'il entend. Et il dit, « Je vis », ça c'est son regard, « et au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards ou des anciens, un agneau qui était là comme immolé, il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur la terre. » Donc on lui présente par la voix quelque chose et il voit par son regard quelque chose de différent. Ce sont, si vous voulez, deux expressions différentes. Il s'agit de la même réalité. Le lion, c'est l'agneau. Exactement comme dans les deux premières occurrences, il s'agissait de la même chose. Alors on continue au chapitre 17. Là, il s'agit de Babylone, la grande prostituée. Enfin, là, le secret, si vous voulez, est dans l'expression elle-même, puisque Babylone, c'est le nom d'une ville. Et la prostituée fait référence à une personne. L'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et me dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Donc voilà ce qu'il lui annonce. Verset 3, « Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme. » Il lui annonce une ville, il voit une femme assise sur une bête écarlate. La même chose se passe quand l'ange lui annonce la nouvelle Jérusalem. Chapitre 21, versets 20 et 2. Ce qu'il voit descendre d'auprès de Dieu, dit-il, c'est la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Mais ce qu'il entend du trône, une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ». Évidemment, il s'agit de la même réalité. Mais c'est présenté de deux façons différentes. D'une part, l'épouse, d'autre part, l'habitation de Dieu, donc soit la ville, soit le temple lui-même, qui est décrit par l'expression. Quelques versets plus loin, « L'un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint et me dit, » encore une fois, la traduction est un peu différente, mais il s'agit du dire, « En me disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Il lui dit, ce qu'il entend, je te montrerai l'épouse, mais il ne voit pas une épouse, il voit la ville sainte. Deux représentations, si vous voulez, différentes, mais la même réalité qui est concernée. À chaque fois, bien entendu, il s'agit ici de la nouvelle création, comme dans le cas de la prostituée Babylone, il s'agit de la société ennemie de Dieu, qui est représentée doublement à la fois comme une prostituée et comme Babylone, la ville qui s'oppose à Dieu et au peuple de Dieu. Alors c'est dans ce contexte qu'il faut lire le passage qui concerne les 144 000. Parce qu'on ne note pas, si vous voulez, cette manière de présenter les choses de Jean. Donc je reviens au chapitre 7 maintenant, que j'ai laissé de côté, et nous allons voir exactement la même présentation. Un entendre et un voir, deux réalités différentes, ou deux représentations différentes, mais qui concernent la même réalité. Après quoi, je vis quatre anges là, on est à la fin du sixième sceau, et donc avant le septième sceau. Il voit donc cette vision, debout aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents de la terre pour qu'il ne souffle à point de vent, ni sur la mer, ni sur la terre, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange monté de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Et il cria d'une voix puissante aux quatre anges auxquels il fut donné de malmener la terre et la mer. Attendez pour malmener la terre et la mer et les arbres, que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. Et j'appris combien furent alors marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, donc 12 000, on a les 12 fois 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser ou d'Asher, 12 000, de la tribu de Naphtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, et de la tribu de Benjamin, 12 000 furent marqués. J'ai signalé hier des anomalies, si vous voulez, dans cette liste, qu'on peut voir tout de suite. Comme je vous dis, en fait, elle commence par Judas, et aucune des listes dans l'Ancien Testament des patriarches, soit des tribus, soit des patriarches, ne le fait. Et là, c'est déjà une indication. Et puis, vous avez une absence, une des tribus qui n'est pas mentionnée, celle de Dan, et elle est remplacée par l'un des fils de Joseph, qui est déjà inclus, si vous voulez, dans la tribu de Joseph, puisque les deux fils sont représentés soit par eux-mêmes, sans la présence de Joseph, soit par Joseph. Immédiatement après, donc ça c'est ce qu'il entend, ce que l'ange lui annonce, immédiatement après, il dit « Je vis, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtu de robes blanches, de palmes à la main, il crie d'une voix puissante, « Le salut est notre Dieu qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau. » Et tous les anges en cercle autour du trône, les anciens et les quatre vivants, se prosternèrent devant le trône, face contre terre, pour adorer Dieu. Et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. » Vous trouvez au verset 12 la septuple expression de louange à Dieu. Verset 13, « L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Et moi de répondre, « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Et il reprit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve ou la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » C'est une expression qui est absolument merveilleuse. Mais si on veut la prendre littéralement, elle fait tout à fait bizarre de blanchir la robe dans le sang de l'agneau. Et évidemment, c'est le sens qu'il faut aller chercher, et pas du tout la littéralité. Ils ont acquis la pureté et la sainteté et le salut à cause du sang de l'agneau, donc à cause de la mort de l'agneau, et en ayant eu foi en lui. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera dans sa demeure. Jamais plus ils n'auront faim, ils n'auront plus soif, jamais plus ils ne seront frappés par le soleil ni par aucun vent brûlant, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources des eaux vives. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Promesse absolument magnifique pour nous. Vous notez, encore une fois, une image à laquelle on ne fait pas attention parce qu'on désigne le Seigneur tellement par l'agneau, mais comment l'agneau qui normalement suit le berger, que c'est l'agneau qui est le berger. Hein, c'est assez, c'est, comme je dis, les images sont assez extraordinaires, mais c'est parce que Jean tient à exprimer, si vous voulez, ce symbolisme. Alors, à mon avis, nous avons, si vous voulez, une indication déjà là très très claire qu'il s'agit des mêmes gens. Nous n'avons pas, si vous voulez, affaire à deux réalités différentes. C'est toujours ce jeu ou cette expression double de nous présenter la même réalité sous deux regards différents ou dans deux perspectives différentes. Ce que j'ai dit hier sur les 144 000 et le symbolisme, si vous voulez, de l'armée qui est comptée et qui est au service de l'agneau demeure, je crois que c'est vraiment l'arrière-plan de nombre. Du livre de Nombres qui nous aidera à comprendre cela. Mais la bataille que ces soldats mènent est complètement différente de celle qui a été menée dans l'Ancien Testament ou des batailles que les armées mènent aujourd'hui. Elle va être précisée tout à l'heure, donc je voudrais lire l'autre passage qui fait référence explicitement aux 144 000. C'est la bataille sera menée comme obéissance à l'agneau, comme fidélité et loyauté au Seigneur Jésus et au Dieu qu'il représente. Alors, si vous n'êtes pas encore, si vous voulez, convaincu par cela, j'espère que le prochain passage apportera une conviction finale. Donc, au chapitre 14, Jean dit, cette fois-ci, en renversant l'usage des verbes. Il dit, je vis les 144 000, mais j'entendis la foule chanter. Alors, c'est le texte lui-même, donc il n'y a pas d'ajout. C'est vraiment le texte biblique. Je vis, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Au chapitre 7, ils étaient scellés du sceau de Dieu. Ils avaient la marque de Dieu sur eux. Nous apprenons maintenant quelle sorte de marque ils avaient. C'est le nom du père et le nom de l'agneau, c'est-à-dire, physiquement, on peut avoir tous les écriteaux, toutes les inscriptions que l'on veut. C'est pas ça qui changera. Ce qui changera, c'est si réellement nous sommes au service de Dieu et de l'agneau, si le nom qui nous identifie, c'est le Seigneur Jésus et le Dieu qu'il représente. Verset 2, j'entendis, je vis et j'entendis, du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe, et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens ou les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000, les rachetés de la terre. Les 144 000 sont la totalité des rachetés de la terre. Donc ils ne constituent pas simplement un petit nombre que l'on peut détacher de l'ensemble du peuple de Dieu. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, c'est littéral, hein, donc, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont répréhensibles. Irrépréhensibles. Mais c'est bien ce que j'ai dit, non ? J'ai dit répréhensibles. Ouh là là ! Irrépréhensible, donc, pour que ça soit clair. Alors, soit l'Apocalypse, si vous voulez, fait un élitisme absolument extraordinaire, où il y a simplement certains qui sont doublement décrits spirituellement, disons, et aussi physiquement. Ce sont des vierges, dans le grec, c'est masculin. Donc, il s'agit simplement des hommes. Et puis, le texte précise, ils ne se sont pas souillés, enfin, avec les femmes. Dans la Bible, la relation sexuelle entre mari et femme n'est pas du tout dénigrée, n'est pas de l'ordre de la souillure. Elle est parfaitement acceptable et parfaitement bénie par Dieu. Du côté maintenant, si vous voulez, spirituel, ils suivent l'agneau partout où il va. C'est ce dont l'agneau est le berger. Ils ont été rachetés par les hommes, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Ils sont porteurs de vérité. La vérité ou le mensonge est la marque de ceux qui suivent l'agneau d'une part et ceux qui suivent la bête d'autre part. C'est-à-dire que pour, à la fin de l'Apocalypse, Jean utilise le mot « menteur » presque pour résumer tous les péchés. C'est ceux qui ne disent pas la vérité, ceux qui ne sont pas selon la vérité. Mais comme je ne crois pas qu'il y ait un élitisme quelconque dans l'Apocalypse, il faut accepter que nous avons ici une double description de l'ensemble des croyants. Alors là, sur cela, moi je dirais qu'il y a aujourd'hui un consensus très très large. La seule différence, c'est est-ce qu'il s'agit des croyants de la dernière période de temps ou est-ce qu'il s'agit, si vous voulez, des croyants de tous les temps. On peut discuter, en fait, on peut avancer des arguments, je pense, de part et d'autre. Mon impression, c'est qu'il s'agit réellement d'une image en raison du symbolisme et en raison du fait que, à la fois au chapitre 7 et ici, ils apparaissent comme les rachetés, comme l'humanité nouvelle qui chante le chant de l'agneau. Donc il s'agit d'une représentation des croyants dans leur ensemble. Voilà donc, si vous voulez, il faut poursuivre un petit peu l'étude pour vous-même, mais voilà les données, si l'on veut arriver à une conclusion sur l'identité et la fonction de ces 144 000. Plutôt, si vous voulez, que de simplement donner une réponse identitaire. Maintenant, il me semble que quand on fait ce genre de travail, on voit les caractéristiques qui sont beaucoup plus importantes que simplement est-ce qu'il s'agit de croyants qui appartiennent à telle ethnie ou à tel groupe religieux, parce que vous avez des sectes qui réclament d'être les 144 000, il s'agit plutôt de voir les caractéristiques. Et les passages que nous avons lus, et en particulier le chapitre 14, nous les décrit. L'idée, je pense incidemment, je crois que l'idée de ne pas s'être souillé, c'est encore une fois une image qui provient de l'armée d'Israël où les hommes ne devaient pas avoir de relation avec leurs épouses avant ou en se préparant pour la bataille. La caractéristique fondamentale, c'est que, un, ce sont des disciples de l'agneau, ce sont des disciples véridiques, leur témoignage est un témoignage de vérité, et ils sont prêts à suivre l'agneau jusqu'au bout. C'est la caractéristique tout à fait des disciples dans l'Apocalypse, ceux qui sont prêts à aller derrière l'agneau, à lui obéir, à lui être loyal jusqu'au bout, même si ça leur coûtait la vie. Et de ce point de vue-là, ils sont effectivement irréprochables ou irrépréhensibles. Voilà. Donc ça, c'est une première indication, si vous voulez, de lecture. Et comme je vous dis, enfin, je vous encourage à lire le texte, à relire ces différents passages pour voir si ce que je vous dis fait du sens. Comme un peu ces chrétiennes de Béret qui examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était parole de Dieu. Une autre indication maintenant, parce que nous allons parler de certains passages vers la fin du livre qui pourraient être controversés. Jean, comme vous le savez, nous présente des séries de sept. Alors il y en a quatre sur lesquelles il n'y a pas de discussion parce qu'il les présente comme sept. Les lettres aux sept églises sont présentées comme sept. Les sept sceaux qui sont ouverts sont présentés comme sept, donc il n'y a pas de problème. Comme les sept trompettes, chapitre 8 et suivant, et les sept coupes que les anges déversent sur la création. S'il n'y a pas de discussion, si vous voulez, sur quatre septenaires, certains ont essayé de chercher d'autres septenaires en comptant. Par exemple, dans les signes entre le chapitre 12 et le chapitre 15 qui commence les coupes, certains ont essayé de trouver sept visions différentes. Et certains ont trouvé une autre série de sept visions après. Donc, c'est possible, mais comme ces séries ne sont pas mentionnées, je pense qu'il faut nous limiter aux séries qui sont explicitement présentées comme des séries. Et là, je voudrais prendre, parce que les sept lettres, elles sont envoyées aux sept églises, il y a plusieurs structures qui ont été proposées pour voir à ce qu'on peut relier ces sept églises dans un certain ordre ou non. Mais en fait, il n'y a pas eu de succès jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'assentiment, si vous voulez, tout à fait généralisé. Pour les trois autres septenaires, qui sont d'une nature différente, il y a un assez grand accord, mais on ne s'en aperçoit pas toujours. En général, il y a, on les relie, 4, 2 et 1. Et ce qui est le plus visible, parce que là, il y a des indications très explicites, c'est qu'il y a une séparation entre les six premiers signes, soit les sceaux ou les trompettes ou les coupes, et le septième ou la septième, donc le dernier. Et à chaque fois, l'auteur a inséré un enseignement, si vous voulez, spécial entre le sixième et le septième. Ce que nous venons de lire au chapitre 7 est inséré après le septième sceau et après le sixième sceau, pardon, et avant le septième sceau. Le sixième sceau finit au chapitre 6, versets 12 à 17. Donc, il faut lire son contenu. Lorsque Jésus ou l'agneau ouvrit le sixième sceau, il se fit un violent tremblement de terre et le soleil devint noir comme une étoffe de crin. Et la lune devint tout entière comme du sang et les astres du ciel s'abattirent sur la terre comme des figues avortées que projette un figuier tordu par la tempête. Et le ciel disparut comme un livre qu'on roule. Et les monts et les îles s'arrachèrent de leur place, et les rois de la terre et les hauts personnages et les grands capitaines et les gens enrichis et les gens influents et tous esclaves ou libres, ils allèrent se terrer ou se cacher dans les cavernes parmi les rochers des montagnes, disant aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui siège sur le trône et de la colère de l'agneau. Car il est arrivé le grand jour de leur colère et qui donc peut tenir ? Clairement, on a une vision de fin des temps. On aurait, si vous voulez, pu avoir l'impression que ceci étant le sixième sceau, le septième sceau va apporter la venue de Dieu lui-même pour mettre fin à l'existence telle que nous la connaissons. On n'a pas l'impression, si vous voulez, en écoutant ce passage ou en le lisant, que le monde puisse continuer par la suite pendant une très longue période. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe, puisque après la... on ne peut pas l'appeler la parenthèse, parce qu'elle est beaucoup plus qu'une parenthèse, après la présentation des 144 000 qui sont en même temps la foule immense qui célèbre Dieu et l'agneau, nous avons une nouvelle série qui repart. Alors, on va retrouver la même chose avec les sept coupes. D'accord ? Donc, il faut juste observer comment Jean écrit. Et à nouveau, nous n'ajoutons rien à l'écriture. Nous observons comment l'auteur a rédigé son texte et nous essayons donc de comprendre ce qu'il veut nous communiquer de cette manière. Je dirais que le Seigneur nous demande exactement cette sorte de fidélité dans l'étude de sa parole. D'accord ? Alors si donc, il y a la structure 6 plus 1, on l'a vu avec les sceaux, elle apparaît exactement avec les trompettes. Au chapitre 8.1, le septième sceau est ouvert, mais ça n'est pas la catastrophe finale, ce n'est pas la venue de Dieu. Le texte nous dit « Il y eut un silence dans le ciel d'une demi-heure ». Allez comprendre pourquoi une demi-heure. Et après, le texte dans les versets qui suivent nous présente sept anges dans la présence de Dieu. On leur remet sept trompettes. Et il s'apprête à sonner des sept trompettes. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la fin du chapitre 6 où on avait l'impression d'être arrivé à la fin des temps ? Écoute, c'était des catastrophes cosmiques. Je veux dire, il n'y a plus personne qui vit dans une situation comme ça. Imaginez, il a suffi que les deux tours de New York s'effondrent pour qu'il y ait une catastrophe dont on n'est pas encore relevé. Alors imaginez que ce qui est décrit dans ce passage puisse arriver, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de possibilité de vie. Et pourtant, le livre continue. Et donc, nous avons dans la deuxième partie du chapitre 8, enfin, je ne veux pas le lire pour gagner du temps, et dans le chapitre 9, nous avons les six premières trompettes qui sonnent. D'accord ? Donc, nous avons, à chaque trompette, eh bien, il y a un fléau que Dieu dirige et qu'il fait venir sur la terre ou un aspect de la terre. Et puis nous avons, exactement comme nous avons vu au chapitre 7 avec les 144 000 et la foule nombreuse, chapitre 10, c'est Jean qui est mis sur scène. Jusque-là, il n'était pas sur scène du tout, sauf quand il reçoit la parole de l'ange. Mais au chapitre 10, il y a un ange qui descend du ciel, un ange très puissant, et qui lui apporte un livre. Et il lui dit de manger le livre, qui sera doux dans sa bouche, mais qui sera amer une fois qu'il l'aura avalé. C'est une reprise de la scène du prophète Ézéchiel. Ézéchiel reçoit exactement, s'il fait exactement la même expérience, Dieu lui remet un livre qui sera doux dans sa bouche. C'est le message que Dieu lui confie, mais quand il aura mangé, il sera amer dans son ventre. Et Ézéchiel nous explique pourquoi. Parce que le message que Dieu lui a donné d'annoncer à Israël est un message difficile. C'est le message qui concerne l'exil et le châtiment que Dieu va infliger à Israël dans l'Ancien Testament pour ses péchés. Jean, donc le prophète de l'eschatologie inaugurée, le prophète de l'accomplissement des prophéties. Il ne va pas faire la même expérience, une expérience analogue, mais maintenant, qui montre que nous sommes entrés dans l'accomplissement. Et donc, c'est un livre qu'il reçoit, même expérience, il est doux dans sa bouche, la parole de Dieu est douce pour ceux qui l'accueillent positivement, nous voulons manger la parole de Dieu, mais la mission qui est confiée est parfois difficile. Et Jean ne doit pas simplement annoncer la parole à une nation ou à un peuple, mais à de nombreuses nations. Il y a une sorte d'universalisation du message que Jean reçoit. Mais Jean est posé comme prophète au chapitre 10. Au chapitre 11, chapitre très intrigant, difficile, si on avait 2 heures de temps, donc on passerait à travers ce chapitre. Il a été sensationnalisé dans ses films Left Behind. Hein, où on vous montre 2 témoins et quand des gens viennent leur chercher causer des ennuis, il y a du feu qui sort de leur bouche et qui consomme ces gens-là. Difficile d'interpréter un passage comme ça littéralement. Après avoir vu la manière dont Jean s'exprime. On n'a pas le temps, mais à mon avis, et encore une fois, c'est une lecture qui est relativement partagée, hein, qu'un grand nombre de lecteurs partagent. Il s'agit réellement d'une représentation de l'Église comme témoin dans son rôle prophétique, dans son rôle d'annonce de la parole de Dieu. Les 2 figures qui sont représentées sont une sorte de Moïse et Élie, et ils reçoivent les pouvoirs de Moïse et Élie multipliés. Mais surtout, ils déclarent la parole de Dieu et ils acceptent d'être mis à mort pour la déclaration de la parole de Dieu. C'est exactement le témoin tel que l'Apocalypse le décrit. Et une fois qu'ils sont mis à mort, là, il y a une psychologie, enfin une description psychologique qui est absolument époustouflante. On nous dit que les gens, hein, les nations sont heureux parce que ces 2 prophètes, les troublés, traduisant dans un langage très très populaire, ils leur cassaient les pieds. Hein, et ils disent, puisqu'ils sont morts, maintenant ils sont heureux et ils fêtent leur mort. Et ils s'envoient des cadeaux les uns aux autres. C'est le Noël diabolique, hein, de gens qui sont heureux parce que ceux qui leur... Ils ne les troublaient pas autrement qu'en leur annonçant la vérité. D'accord ? C'est pour ça que dans l'Apocalypse, la vérité est dire la vérité et vivre la vérité ou faire la vérité, comme Jean le dit, est absolument décisif et descriptif. Hein, c'est une marque identitaire d'appartenance à l'agneau. Et les gens, donc les sociétés, les laissent leurs cadavres sur la place publique sans les enterrer. Ce qui était une ignominie à la fois en Israël et dans le monde gréco-romain. Dans le même gréco-romain, il y a une des anciennes tragédies qui tournait exactement sur le fait que une sœur enfin avait son frère qui avait été mis à mort, et le roi disait il ne faut pas l'enterrer, et elle a bravé l'ordre du roi parce qu'elle ne pouvait pas laisser son frère sur la place publique. Et donc là, c'est l'ignominie complète pour ces 2 témoins, parce que non seulement on fête leur mort, mais on ne les enterre pas. Et le texte nous dit, finalement, c'est Dieu lui-même qui envoie son esprit en eux, et il ressuscite et il monte dans la présence de Dieu. C'est une traduction impeccable de ce que Jean présente en termes, si vous voulez, de mission, de témoignage, le mandat d'être des témoins dans la société où nous sommes. Vous avez la puissance, dit-il, d'Élie et de Moïse multipliée. Vous pouvez, vous avez une autorité de déclaration de sa parole qui n'a presque pas de limite parce que le Seigneur lui-même se tient avec vous et derrière vous. Vous ne serez pas bien reçu en déclarant la vérité parce que, comme Jean le dira dans l'Évangile, s'ils ne m'ont pas accueilli, ils ne vous accueilleront pas. Et il y a des risques à proclamer la parole de Dieu. Il y a des risques de rejet, il y a des risques d'être marginalisé. Comme je dis, la présentation enfin de ces deux personnes que l'on met à mort et qu'on laisse dans la place publique et on fête cette mort est très instructive sur la manière, si vous voulez, dont en général le témoignage chrétien est reçu par une société non-croyante ou des sociétés non-croyantes. Et s'il y a une mort physique, ça n'est pas la fin de l'histoire. Le texte nous dit la première mort n'est pas la plus importante. En fait, elle ne compte pas. L'Apocalypse, je crois que je l'ai signalé dans le premier exposé, joue d'une autre dualité, la première résurrection et la seconde mort. Sans jamais mentionner la première mort ni la seconde résurrection. C'est parce que ce sont ces éléments-là qui sont fondamentaux, si vous voulez. Ce qui est fondamental et ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort dans les temps de feu. C'est le jugement final dont on ne revient pas. Et c'est ce qui est décrit, par exemple, au chapitre 20, le sort des bêtes, grand dragon, et de tout ce qui s'oppose à Dieu et au peuple de Dieu. Ils sont jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort. Et l'Apocalypse nous dit comment éviter cette seconde mort, c'est de participer à la première résurrection. C'est de venir connaître Dieu et l'agneau, par l'agneau, dans la foi, et de vivre de nouveau. Et cette résurrection, incidemment, l'apôtre Jean l'appelle résurrection, vie d'entre les morts, c'est cela qui est décisif. Si vous voulez, ces deux témoins ont connu la première mort, mais ça n'est pas terriblement important. Il faut être prêt à cela. Ce qui est le plus important, encore une fois, c'est d'avoir connu le Seigneur et d'avoir connu cette première résurrection qui fait qu'ils ont la vie éternelle et ils ne mourront pas. Donc, après ces deux témoins, au chapitre 11, on arrive à cette situation qui sépare la sixième trompette et la septième. Et on arrive maintenant à la septième trompette, chapitre 11, versets 15 à 19, si on peut le projeter. Donc, sixième trompette. Le ministère prophétique de Jean et des deux témoins. Et maintenant, la septième trompette. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il règnera au siècle des siècles. » Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. » Rappelez, je vous avais signalé que l'expression triple, celui qui est, qui était et qui vient, n'est pas toujours utilisée de cette manière. À deux reprises, elle est utilisée sous une forme simplement double, celui qui était et qui est. C'est l'un des cas est ici. Pourquoi ? Ben parce que là, le Dieu est présent. On ne l'attend plus. Son royaume est devenu une réalité. Donc, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans le temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Ce sont les manifestations de la venue de Dieu. Dieu vient, et je pense que Jean, si le Seigneur l'avait dirigé dans cette direction-là, aurait pu mettre sa conclusion après ces versets. C'est-à-dire que là, on aurait, avec des petits aménagements, on aurait eu la fin de l'Apocalypse parce que c'est l'annonce de la venue finale, ultime de Dieu dans ce passage. Et pourtant, ce n'est pas la fin. Si vous voulez, on va continuer. Et nous avons, après le chapitre 12, 13, 14, au chapitre 15, nous avons l'apparition de sept anges à nouveau qui viennent de la présence de Dieu et à qui on remet sept coupes qu'ils vont déverser sur la terre. Et dans cette situation, on va retrouver exactement le schéma 6 plus 1, c'est-à-dire les six premiers anges déversent leur coupe et puis il y a un petit arrêt, tellement petit que certains le ratent. Mais il est tout à fait clair et présent. Et nous avons la septième coupe qui, encore une fois, nous met en situation de fin des temps. D'accord ? Je vous invite à la lecture de ces passages. C'est beaucoup de lecture, mais la prochaine fois que vous allez lire ces passages, j'espère que ça sera un peu plus clair. Après le sixième, donc après le sixième ange, la sixième coupe qui a été déversée, au chapitre 16, verset 14 et les versets qui précèdent, nous avons cette petite expression du Seigneur Jésus, « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » C'est le verset que nous avons vu hier, et c'est un verset que pour beaucoup, dans beaucoup estiment qu'il est tellement peu à sa place qu'un grand nombre de commentateurs ont dit « il faut l'éliminer ». On dit là, il doit y avoir un copiste un peu taré qui ne comprend rien, qui a inséré ce verset-là, mais il ne fait pas de sens. Hein, parce qu'on parle des coupes et on vient de décrire les sept coupes, et dans le verset suivant, on parle de la septième coupe. Qu'est-ce que ce verset sur la venue de Jésus comme un voleur vient faire ici ? Et pourtant, il occupe exactement la même place que le chapitre 7, d'une part, dans le cycle des sept sceaux, et les chapitres 10, 11, dans le cycle des sept trompettes, 6, intercalaires, si vous voulez, plus la dernière expression, soit des sept sceaux ou des sept trompettes. Et on le comprend en mettant les trois intercalaires l'un au regard de l'autre. Premier intercalaire au chapitre 7, le peuple de Dieu, s'il est fidèle, a le sceau de Dieu, il est sous la protection souveraine de Dieu, rien ne lui arrivera. Les 144 000 armées militantes du Seigneur Jésus, par le témoignage, pas par des bazookas et des armes qui mettent à mort, est vraiment sous sa protection ultime, même s'il devait mourir. D'accord ? Deuxième septenaire, celui des trompettes, l'intercalaire est fait par la mission prophétique du peuple de Dieu, représentée d'abord par Jean, qui reçoit le livre prophétique, et par les deux témoins, symboles du peuple de Dieu à travers les âges. Ils peuvent mourir, mais le Seigneur est en contrôle de toutes choses. Leur témoignage est accepté par certains parce que, suite à leur témoignage, certains se sont convertis, alors qu'il n'y a pas de conversion suite aux différentes calamités, aux différents malheurs qui atteignent la terre. Mais ils ne sont pas acceptés et ils sont mis à mort. Leçon fondamentale, Si vous êtes un témoin fidèle, vous êtes sous la protection de Dieu et votre vie est assurée pour l'éternité. Rien ne vous arrivera qui n'ait été permis, autorisé explicitement par Dieu. Mais assurez-vous à ce que des tuiles vous tombent sur la tête. C'est le lot, si vous voulez, de tous les fidèles à travers tous les âges, sous l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, à commencer par le Seigneur Jésus, les apôtres, les premiers chrétiens, etc. Et le troisième intercalaire que nous avons, beaucoup plus bref parce que c'est comme s'il signifiait par sa forme la rapidité ou la soudaineté du retour du Seigneur Jésus. Très bref, par rapport, si vous voulez, au chapitre 10 et 11, qui sont relativement longs, le Seigneur Jésus promet solennellement qu'il revient comme un voleur, et ce qu'il nous demande, c'est de maintenir notre fidélité avant l'expression de la septième coupe. Voyez ? Maintenant, la septième coupe peut être exprimée. Le septième ange versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre », ce qu'on a vu décrit à la sixième, au sixième sceau et à la septième trompette. C'est pas tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle dont les grelons pesaient un talon, qui est énorme, hein, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes parlaient de tuiles qui vous tombent sur la tête. Quand vous avez un grelon qui pèse un talon, c'est absolument écrasant. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de repentance des hommes devant le châtiment de Dieu. Il y a un endurcissement. Les hommes se repentent au témoignage coûteux, sacrificiel des croyants. Donc il blasphémait Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Il y a plusieurs un petit peu conclusions qu'on pourrait en tirer, mais j'espère que vous voyez quand même de façon évidente que les sept septenaires, même s'ils sont présentés en continuité, plutôt successivement l'un après l'autre, ne peuvent pas être compris chronologiquement l'un après l'autre. On ne peut pas avoir, si vous voulez, trois fin du monde, trois fins des temps à des moments différents. Les trois septenaires, en réalité, intensifient la représentation de la manifestation de la colère de Dieu et apportent des enseignements, si vous voulez, à chaque fois plus précis sur l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il faut plutôt les voir, encore une fois, non comme des choses qui arrivent chronologiquement, mais comme des expressions du châtiment que Dieu inflige à juste titre, parce qu'il est mérité à l'humanité pécheresse et qui refuse de se repentir, et que cette humanité, si vous voulez, persiste dans son refus jusqu'au bout, malgré le caractère grandissant en intensité et en violence du châtiment que Dieu inflige à l'humanité. Et en même temps, le peuple de Dieu est gardé. C'est-à-dire que dans tous ces malheurs qui s'expriment, le peuple de Dieu peut être affecté. S'il y a un tremblement de terre, les croyants sont affectés par le tremblement de terre. S'il y a un tsunami, ils sont affectés par le tsunami. S'il y a des guerres, ils peuvent être tout à fait affectés par les guerres et parfois, comme aujourd'hui dans certains endroits du monde, être les premiers affectés par ces guerres. Ça ne veut pas dire que Dieu les a abandonnés. Ça veut dire que Dieu leur demande d'être ses témoins dans cette situation-là, de lui rester fidèle, de maintenir leur loyauté, même s'ils devaient payer de leur vie. Et qu'au final, la grande... satisfaction, c'est de voir certains venir à la connaissance de Dieu et de l'agneau à travers leur témoignage. Voilà, je pense, certains des éléments que nous pouvons tirer un petit peu de ces indications. Est-ce que vous auriez envie de poser quelques questions, parce que je peux très bien arrêter jusque-là avant, je ne sais même pas si j'ai le temps de continuer. Je n'ai pas encore parlé du chapitre 20, 21 et 22. Je suis tout à fait à votre service. Vous avez été les deux premières soirées tout à fait patient et même persévérant dans votre écoute. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser, ou vous préférez que je continue un petit peu? Bon, voilà. Si... Écoute, je vais... penser au livre de l'Apocalypse vraiment comme à deux structures intégrées. Il y a ces séries de sept, vraiment qui le ponctuent, et de visions, peut-être même celles qui ne sont pas comptées, ont été voulues au nombre de sept. Et donc ça, c'est une première structuration du livre de l'Apocalypse. Je n'ai pas le temps, sinon j'aurais projeté en fait un texte qui reproduit cette première structure. Mais je suis persuadé que Jean, si vous voulez lui imprimer une deuxième structure, où il a partagé le livre en deux. La première partie qui va jusqu'au chapitre 11, et une deuxième partie, et les deux étant reliés, si vous voulez, comme... projetant deux lumières différentes sur la situation des chrétiens et du monde. Le premier, donc du chapitre 1 à 11, en gros, les chrétiens sont assurés de la présence de Dieu et ils voient des catastrophes qui arrivent dans le monde dans lequel ils vivent. Ils savent que Dieu est en contrôle, mais ils ne savent pas pourquoi les choses se passent de cette manière. Dans la deuxième partie, il va révéler les enjeux. C'est dans la deuxième partie que les figures du mal vont être présentées. Dans la première partie, Satan est mentionné, si je me rappelle bien, une ou deux fois, mais presque là où est le trône de Satan. Deux fois, si je me rappelle bien, dans les messages aux sept villes, mais sinon, Satan n'apparaît pas. C'est plutôt l'expression de la société romaine avec son imposition du culte impérial et de culte païen qui sont au centre. Quand on arrive au chapitre 12, la situation change, et elle change complètement. Parce que la première chose, si vous voulez, que le chapitre 12 va nous présenter, un chapitre magnifique, hein, j'espère que vous n'êtes pas effrayés par cette figure du dragon qui secoue le tiers des étoiles avec sa queue. Non, c'est devant le Seigneur, il est comme un petit toutou. Hein, il paye vraiment pas de mine, il ne faut pas le craindre. Mais il échoue dans ce chapitre-là, c'est échec après échec après échec. Et puis finalement, il est précipité sur la terre. Parce qu'il, ben oui, il veut bouffer la postérité de la femme, il ne réussit pas. Et il poursuit la femme, il ne réussit pas à l'atteindre. Il se tourne vers la postérité de la femme, l'autre postérité, il n'arrive pas à l'atteindre. Donc c'est échec sur échec sur échec. Et puis alors qu'au départ, il est au ciel, langage apocalyptique, il a accès à Dieu dans le ciel. Il est précipité sur la terre et il n'a plus, si vous voulez, aucune autorité devant le Seigneur. Il est vraiment dégonflé comme un ballon de baudruche. Mais c'est un passage magnifique, parce qu'il revient, Jean revient à l'origine, il nous montre, présente d'abord cette femme glorieuse, avec les 12 étoiles, le symbolisme du 12 hein, qui apparaît, le soleil et les étoiles et la lune qui lui sont assujetties, une gloire extraordinaire, et elle va donner naissance au Messie. Il y a la citation du psaume 2 donc, qui montre que son enfant, le texte nous parle d'un enfant mâle qui va conduire les nations. Comme je dis, une allusion très très claire au psaume 2, et il s'agit de la naissance du Messie. Alors ce n'est pas Marie qui est représentée, on aurait pu avoir Marie remarquée. Hein, Marie est une femme d'une foi extraordinaire et elle devrait être un modèle pour les chrétiens. Non, ce n'est pas Marie, c'est la communauté croyante de l'Ancienne Alliance. Cette femme représente la communauté de foi fidèle à Dieu dans l'Ancienne Alliance, donc le peuple fidèle d'Israël, d'où provient le Messie. Et le Messie est effectivement né. Alors le chapitre 12 fait un raccourci très très rapide, puisqu'il passe rapidement sur la croix, il nous parle de son ascension victorieuse auprès de Dieu. Pourquoi ? Ben parce qu'il voulait montrer que ce n'est plus Satan qui avait accès à Dieu, mais c'est le Messie qui, comme les évangiles, le livre des Actes le décrivent, qui est à la droite de Dieu où il règne. Et le chapitre 13 nous présente deux bêtes. Alors, la bête abominable, immonde, méchante, perverse. La première est une reprise des quatre bêtes de Daniel. Vous vous rappelez que Daniel, chapitre 7, évoque quatre bêtes qui représentent les empires humains. Jean met les quatre ensemble. Il prend la description des quatre dans Daniel 7. Et donc, encore une fois, le prophète de l'eschatologie inaugurée. Nous sommes à la fin des temps et le mal maintenant va s'incarner, si vous voulez, ou récapituler en lui les expressions ou toutes les expressions importantes du passé. Et puis là, il y a une deuxième bête qui est un peu différente et qui n'est pas annoncée par Daniel. C'est une bête, elle, qui agit par le mensonge. Dissimulation, tromperie, séduction. La deuxième bête, si la première bête agit par la violence, la force, la deuxième, c'est, elle est à son service, si vous voulez, par le discours trompeur. Et elle trompe les gens. Elle arrive à séduire, évidemment, le verbe tromper et séduire sont de sens très très proches. Donc ça c'est ce que nous avons dans ces deux premières présentations. À nouveau, le peuple de Dieu, ceux qui ont reçu le sceau de Dieu, n'ont rien à craindre. Les autres, eh bien, ils reçoivent la marque de la bête et ils sont au service de la bête. Alors si vous voulez présenter, peut-être projeter le dernier tableau, j'ai un tableau qui est un peu plus complet, mais celui-là, dans sa simplicité, je crois, va dire l'essentiel. Je ne sais pas si on peut le projeter. Donc, il y a au chapitre 12 le dragon qui nous est présenté comme étant actif. Quand il est précipité du ciel, il est sur la terre et il cherche à faire des dévastations. Il y a un croyant une fois qui m'a dit ben oui, le dragon n'est plus dans le ciel, malheur à nous parce que maintenant il est avec nous sur la terre. C'est une compréhension, mécompréhension totale. Les chrétiens n'ont rien à craindre sur la terre. Les habitants de la terre pour l'Apocalypse sont ceux qui sont au service de la bête. C'est ceux qui ne se convertissent pas. L'expression les habitants de la terre ne concerne pas les rachetés ou les adorateurs de l'agneau. Et donc, les croyants n'ont rien à craindre de Satan sur cette terre. Il ne peut pas, si vous voulez, leur faire du mal pour autant qu'ils maintiennent leur fidélité et leur loyauté à l'agneau. Mais il est actif. Au chapitre 13, les deux bêtes, enfin, lisez ce chapitre, sont actives. L'une essaie d'effrayer, de détruire, et l'autre, par son mensonge et sa séduction, donc, veut tromper les gens et les mettre au service de la première bête et du dragon. Et au milieu, nous avons une présentation d'une nouvelle entité, Babylone, Babylone la grande prostituée, doublement donc de double présentation de celle qui, en tant que femme, est prostituée. Vous vous rappelez le symbolisme de la prostituée dans l'Ancien Testament. C'est la pratique de l'idolâtrie. Israël est appelé prostituée quand elle laisse Dieu derrière, quand elle abandonne l'alliance et la Torah pour se rallier à des divinités païennes. Donc c'est une prostitution, si vous voulez, au regard de la parole de Dieu, au regard de l'alliance, c'est de l'idolâtrie. Babylone, c'est l'incarnation de l'idolâtrie en tant que prostituée, mais en tant aussi que société. Elle est appelée Babylone. Babylone, c'est l'ennemi du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le lieu de l'exil, c'est la nation qui a détruit le temple, qui a détruit Jérusalem, et l'expression Babylone est restée à la fois dans les écrits juifs et la tradition juive, mais aussi reprise par les chrétiens comme ceux qui s'opposent à Dieu et au peuple de Dieu. Et donc Babylone nous est présentée d'abord dans sa gloire, hein, quand Jean la voit dans le désert chevauchant une bête ou sur une bête avec son habillement, avec son luxe, etc. Et par la suite, immédiatement après, Babylone est jugée. Babylone est jugée et le chapitre 18 nous décrit son jugement et sa destruction ultime, finale, par Dieu. Les deux bêtes réapparaissent au chapitre 19. On n'en parle plus après, à partir du chapitre 13, mais elles réapparaissent au chapitre 19, et cette fois-ci, elles sont assujetties par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus réapparaît, mais cette fois-ci, comme le cavalier sur un cheval blanc avec l'épée à deux tranchants qui sort de sa bouche. Et les deux bêtes sont vaincues, et le texte nous dit qu'elles sont jetées dans l'étang de feu, qui est la seconde mort. Le chapitre 20, on revient au dragon. On l'avait pas mal oublié à partir du chapitre 12. Il nous a été présenté au chapitre 12. Enfin, il réapparaît brièvement au chapitre 13, mais on n'entend plus parler de lui. On sait enfin qu'il est en train de faire des œuvres maléfiques sur la terre, mais sinon on n'entend pas parler de lui. Au chapitre 20, il réapparaît, et vous savez que le texte nous parle du fait qu'il est lié. Il faut toujours lire très très attentivement. Combien de blagues j'ai entendues en disant si Satan est lié, la chaîne doit être bien bien longue parce qu'il dévaste, il fait un travail de destruction incroyable. Mais le texte ne dit pas qu'il est lié absolument. Le texte il dit il est lié afin de ne pas séduire les nations. D'accord ? Donc ça vaut peut-être le coup même de lire le texte, si je peux le trouver immédiatement, puisque je... Alors, je vais... je pense que je le lirai dans traduction. Le chapitre 20. Donc, on va arriver au chapitre 20 parce que c'est un petit peu un chapitre qui, à l'occasion, il y a une dizaine d'années, enfin, j'avais été invité à Vaux-sur-Seine pour parler de l'Apocalypse, et puis j'ai reçu la consigne stricte, surtout ne pas parler du millénium. C'est un petit peu... je pense réellement qu'on fait des différences d'interprétation un trop grand cas, et que les conceptions parmi les évangéliques peuvent être tenues sans qu'il y ait d'impact négatif considérable sur le reste de la vie chrétienne ou sur le reste des doctrines. Parfois, si je peux le dire, enfin, en montrant un petit peu notre peu de sagesse, notre manque de sagesse, le combat fondamental est avec ceux qui ne croient pas du tout que le Seigneur Jésus va revenir. D'ailleurs, aujourd'hui, parmi les centaines de millions qui se disent chrétiens, il y a une petite minorité qui croit réellement que le Seigneur reviendra à la fin des temps. Et c'est eux qu'il faut essayer de convaincre. Parmi les évangéliques, il y a traditionnellement, si vous voulez, trois grandes lectures du millénium. Ceux qui ont dit le Seigneur reviendra sur terre, et puis il y aura le millénium qui viendra par la suite. Et puis vous avez, c'est le prémillénarisme classique, et puis vous avez d'autres, dont la lecture remonte aussi très très loin dans le temps, qui ont dit non, ils ont dit en fait, le millénium, c'est la dernière partie de l'âge de la grâce ou de l'âge de l'Église. Donc il ne faut pas, pour cette lecture-là, il ne faut pas lire le texte de façon littérale, mais donc durant une longue période de temps, vers la fin de l'âge de l'Église, eh bien, il y aura le règne millénaire. Et puis, vous avez une troisième lecture. On parle de millénarisme inauguré, parfois de amillénarisme, où ils disent, en fait, le millénium, c'est la période de temps qui s'étend de l'ascension de Jésus-Christ jusqu'à son retour, tant et si bien que nous vivons dans le millénium aujourd'hui. Il y a des conséquences, mais il n'y a pas de conséquences qui toucherait une doctrine importante ou qui, je peux passer d'une conception à l'autre sans changer un grain de ma vie chrétienne de chaque jour. Il y a des différences à l'évidence, mais ceux qui croient que le millénium est à venir n'attendent pas le millénium. Encore une fois, ils attendent la venue de Jésus, que ce soit pré-millénariste. Les post-millénaristes, nous allons bien voir si on va rentrer dans une sorte de période millénaire avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui prônent le millénarisme inauguré diront si le Seigneur vient pour établir un millénium sur la terre, nous serions les premiers à dire Amen. Et donc, on se sépare. Et on se rejette les uns les autres alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. Alors ça ne m'empêche pas d'avoir une certaine lecture, mais je la tiens dans les limites, si vous voulez, de l'importance qu'elle a. Et si jamais, il m'est arrivé de le dire plusieurs fois, si jamais je me levais, le Seigneur me venait lui-même, ou s'il envoyait un ange me convaincre que cette lecture n'est pas la bonne, je dirais, bon, tiens, je me suis trompé. Je pensais avoir bien fait, mais ce n'est pas le cas. Mais il n'y aurait pas grand-chose, si vous voulez, qui serait changé par ailleurs. Donc vraiment, vraiment, il faut accorder, si vous voulez, aux doctrines l'importance qu'elles ont, soit stratégiquement, parce qu'il y a des doctrines qui sont plus stratégiques que d'autres. Si on rejette la doctrine de l'inspiration et de l'inhérence de la parole de Dieu, nous rejetons quelque chose qui est fondamental parce que, si vous voulez, c'est stratégique. Le reste des doctrines pourrait suivre et être rejeté facilement. Si nous rejetons la doctrine de la divinité de Jésus-Christ, de sa mort expiatoire sur la croix, là, c'est fondamental. L'édifice, si vous voulez, de la foi chrétienne s'écroulerait. Si on rejetait la doctrine de la Trinité, la même chose. Mais vous pouvez croire que le baptême est par immersion ou par aspersion sans que cela nuise à l'essentiel de votre vie chrétienne. Les baptistes et les credo-baptistes, enfin, comme on les appelle, pensent que le symbolisme est tellement important qu'il faut garder la pratique. Mais ceux qui sont persuadés autrement ont la réalité et une signification très très élevée du baptême. Donc vous voyez, il faut faire vraiment la part des choses. Et en anglais, on a une belle expression qui dit « don't major on minors ». Hein, don't major on minors. Il ne faut pas accorder une importance fondamentale et prépondérante à des éléments qui sont plutôt secondaires. Alors voilà, maintenant on arrive, j'espère, avec toute cette exhortation que nous allons écouter. Écoutez ce passage de l'Apocalypse, chapitre 20. Donc Jean dit « Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. C'est cette même expression qui apparaît au chapitre 12. Le chapitre 12 décrit exactement le diable avec ces expressions-là. Le texte nous dit « Et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, donc les témoins, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Donc ceux qui ne se sont pas assujettis, si vous voulez, au mensonge et à la séduction de la bête. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, donc les deux premières bêtes qui avaient été jetés dans les temps de feu au chapitre 19. Où sont donc la bête et le faux prophète. Voilà. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et après, donc, il y a une nouvelle section avec le trône blanc et ceux qui comparaissent devant le trône blanc. Alors, si je reviens un petit peu à la question fondamentale, si vous voulez, ou une des questions fondamentales pour l'interprétation du chapitre 20, est-ce qu'il y a une chronologie ? Est-ce qu'il suit chronologiquement le chapitre 19 ou non ? Parce que s'il suit chronologiquement le chapitre 19, le Seigneur Jésus, là il n'y a pas de doute, tout le monde est d'accord, et revient et engage déjà une bataille au chapitre 19. Elle est décrite au chapitre 16, et on la voit, si vous voulez, évoquée au chapitre 19, et le Seigneur Jésus-Christ donc réduit ses ennemis, la bataille a été remportée par sa simple présence, comme le juge eschatologique, et là il nous dit donc que les deux bêtes sont jetées dans les temps de feu. Si le chapitre 20 suit chronologiquement le chapitre 19, à ce moment-là, effectivement, le millénium viendra après. Mais ce n'est pas sûr qu'il y ait une chronologie. Le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, justement, suggère qu'il n'y a pas de chronologie, mais qu'on a plutôt qu'on a une présentation thématique. On a la présentation du dragon actif. Les deux autres tableaux qui suivent sont « Comment est-il actif ?» Il y a très très peu de personnes qui ont eu affaire à Satan directement. Luther a pensé le voir et il a pris sa bouteille d'encre et il l'a jetée sur lui. Aujourd'hui encore, il y a les traces de l'encre sur le mur de la chambre où il était à Wittenberg. Est-ce que c'est le diable qui lui est apparu? Peut-être. Ou est-ce que c'est une sorte en fait, de vision alimentée par son inconscient? Mais selon l'Apocalypse, le travail essentiel du dragon se fait à travers les bêtes. Et, si vous voulez, s'incarne dans la grande cité, dans Babylone, la prostituée. Je sais très bien que beaucoup de chrétiens parlent d'être attaqués directement par le diable. Le diable n'est pas omniprésent. Pour autant que l'on sache, il ne peut pas toucher les enfants de Dieu. Et ce que l'Apocalypse nous apprend en plus, c'est qu'en fait, sa manière de fonctionner, sa manière normale de fonctionner, c'est à travers celles qui sont à son service. Un peu, c'est une trinité diabolique avec son anti-église, avec son église renversée. D'un côté, c'est l'épouse, de l'autre côté, c'est la prostituée. C'est la Jérusalem céleste et c'est la Babylone perverse. Le Seigneur Dieu agit à travers le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'est par la mort de Jésus-Christ sur la croix que nous sommes sauvés. C'est comme ça. C'est en nous confiant à Jésus-Christ que nous sommes gardés, que nous sommes maintenus. Et c'est le Saint-Esprit qui nous habite. La Trinité diabolique, si vous voulez, essaie de reproduire cela. C'est-à-dire, Satan confie son... Le texte le dit explicitement. Satan confie son pouvoir à la bête. Et la bête le met en exercice. Et la deuxième bête, si vous voulez, charge... La première bête, pardon, charge la deuxième bête de faire sa besogne. Ils sont au service les uns des autres. Et l'incarnation de leur pouvoir encore comme société se fait dans la grande Babylone. Voilà. Et donc, est-ce que Satan, les deux bêtes sont détruites sans que Satan soit affecté? Est-ce que Satan, si vous voulez, a jamais exercé un pouvoir sans les bêtes? Non, l'apôtre Jean ou le prophète Jean a déjà dénoncé les activités sataniques à travers le culte impérial dès les premiers chapitres. Dès le premier chapitre, il a dit là où il y avait le temple de l'empereur ou des temples des païens, Satan se trouve. Même s'il n'y a, si vous voulez, il n'avait pas encore thématisé la chose. Et donc j'aurais tendance à dire que ce que nous avons comme présentation n'est pas une présentation chronologique, mais une présentation thématique. D'autant plus que la bataille d'Armageddon est racontée deux fois. Et pas une seule fois, mais elle est racontée deux fois, alors que la source de cette bataille, qui est le livre d'Ézéchiel, c'est encore une fois Jean qui apparaît comme le prophète de l'accomplissement eschatologique. Ézéchiel nous parle de cette bataille finale. Jean la reprend, mais c'est comme si il dit elle a deux aspects. Le Seigneur Jésus règle son compte d'abord à Babylone, mais si Babylone est détruite, les bêtes n'ont plus de lieu où exercer leur séduction et leur violence. Et puis il règle leur compte aux deux bêtes, et finalement il règle son compte à Satan, au grand dragon. S'il n'y a pas de chronologie, le chapitre 20 peut très bien être lu, si vous voulez, en parallèle avec le chapitre 12. C'est-à-dire, il désigne exactement la période de l'Église, et alors il se lit très bien de cette manière. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est une lecture qui a la limpidité et la clarté de la lumière, mais c'est une lecture qui se fait très bien, parce que les évangiles nous disent exactement que par sa mort, Jésus a lié le diable. Le même verbe est utilisé. Et le changement radical entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est que les nations, le mot qu'on traduit par nation, c'est le même mot qu'on traduit par païen. Les taetna, ce sont les non-juifs. Le changement radical entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance en termes de ceux qui constituent le peuple de Dieu, c'est que sous l'Ancienne Alliance, c'est essentiellement des croyants provenant du peuple juif, avec très très peu de païens, alors que dans la Nouvelle Alliance, la porte est ouverte aux croyants d'origine païenne qui se joignent aux croyants d'origine juive pour faire le nouveau peuple de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la période du Nouveau Testament avec la première venue de Jésus, et surtout après, avec sa mort et sa résurrection? Satan n'a plus été capable de séduire les non-juifs. De cette manière, ils ont un accès à Dieu par Jésus-Christ. Alors, on le voit bien sûr, les preuves sont avec nous. Il y a des centaines de millions de croyants d'origine non-juive depuis la venue de Jésus-Christ. Satan n'est plus capable de les séduire, de les tromper. Alors, selon cette lecture, vers la fin des temps, il y aura une sorte de recrudescence de la violence, et Satan aura regagné pour un temps limité, on ne sait pas pourquoi, Dieu le prévoit, cette capacité de séduire et de faire du mal avant que le Seigneur ne revienne pour mettre fin à son existence. Ceux qui disent il faut lire le passage de façon littérale ne sont pas du tout sur une base solide, parce qu'il suffit de relire les versets, si vous voulez, du chapitre 20, il n'y a à peu près rien de littéral. On nous dit un ange qui descend du ciel, il a une chaîne, pas littéral, il se saisit du dragon, ce n'est pas un dragon, c'est le serpent ancien, ce n'est pas un serpent, il le jeta dans un abîme, ce n'est pas un abîme, il ferma la porte, il le lia, je ne vois pas comment vous pouvez avec une chaîne réelle, littérale, lier quelqu'un qui n'est pas un dragon, qui n'est pas un serpent littéral. On ferma la porte de l'abîme, ce n'est pas une porte littérale. On met les sceaux, l'expression du pouvoir de celui qui les met, ce ne sont pas des sceaux au sens littéral, donc il n'y a à peu près rien de littéral. Jean dit « je voyais les âmes », je vois très mal comment on peut voir les âmes. Encore une fois, littéralement, je ne dis pas que ce n'est pas la réalité. La réalité est bien présente. Satan a été lié, il a été réduit à l'impuissance. Et comme résultat, il est incapable d'empêcher les croyants ou des hommes, des femmes provenant de milieux non-juifs de recevoir Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Il est rendu incapable de faire cela. Et donc, il a été totalement assujetti à l'autorité de Dieu. Mais il y a pratiquement rien de littéral. Et donc, comment dire, dans toutes ces expressions non littérales, 1000 ans doit être interprété de façon littérale. Moi, je dois dire que ce n'est pas du tout fondé. Il faut avoir des raisons tout à fait spéciales pour dire, ah ben, dans plusieurs phrases où l'essentiel des mots n'est pas littéral, nous avons des raisons pour interpréter 1000 ans de façon littérale. À mon avis, il faut parler, surtout dans l'Apocalypse, ce n'est pas simplement au chapitre 20, où il y a tellement, tellement de symboles, il faut dire c'est une grande période de temps, une longue période de temps qui est fermée sur elle-même, en quelque sorte, bien délimitée, 1000 ans, bien déterminé, qui est visé par ce texte. Évidemment, on peut être tout à fait prémillénariste et accepter le caractère non littéral de 1000 ans. Hein, c'est pas du tout une obligation pour les prémillénaristes. Voilà pour cette question. J'espère que vous n'avez pas été secoué dans vos croyances. Les chapitres 21 et 22 sont absolument fantastiques. On va devoir les laisser à une autre fois. Pardon ? C'est la nouvelle création. La nouvelle terre, les nouveaux cieux sont identifiés avec la Jérusalem céleste. C'est le nouveau, c'est aussi présenté comme un... c'est la nouvelle terre et les nouveaux cieux, donc c'est la nouvelle création. C'est la nouvelle Jérusalem qui descend d'auprès de Dieu, c'est-à-dire c'est la ville sainte dans son expression ultime. Mais aussi c'est un temple. On ne s'aperçoit pas de cette caractéristique, Mais le texte dit clairement, Jean dit, je ne vis pas de temple, et il décrit la nouvelle ville comme un cube. Il n'y a aucun cube dans l'Ancien Testament sauf le Saint des Saints, le lieu très saint. Et donc ce que Jean est en train de dire, en fait, le lieu très saint s'incarne maintenant et il devient universel pour tous ceux et celles qui sont nés de nouveau, donc qui ont connu la résurrection. La résurrection des morts est réelle, je veux dire, ceux qui sont morts vont ressusciter, mais ce n'est pas ça qui est décisif. La résurrection qui est décisive est celle que nous connaissons quand nous venons à Dieu en Jésus-Christ. C'est ça qui fait la différence. Si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes ressuscités d'entre les morts maintenant, spirituellement, notre avenir est assuré pour l'éternité. Et si nous ne l'avons pas fait, c'est la seconde mort qui nous attend. Et donc, dans cette nouvelle création, il y a des choses absolument extraordinaires dans ces chapitres 21 et 22. Dieu lui-même sera présent. La situation édénique est multipliée avec le fleuve d'eau vive qui coule, avec l'arbre de vie qui semble maintenant multiplié des deux côtés de la rivière. Je ne sais pas comment il peut l'être, à moins que, comment un arbre de vie peut être des deux côtés de la rivière, mais encore une fois, on est dans les symboles. Et il donne ses fruits chaque mois. Les 12 mois, il y a des fruits qui sont donnés. Il n'y aura pas de pleurs, pas de mal. La lune, le soleil, on n'en aura plus besoin parce que le Seigneur nous éclairera lui-même de sa lumière. C'est-à-dire, nous allons vivre de notre communion avec lui. Je dois dire juste un petit truc parce que je ne pense pas que vous allez le lire ailleurs. Il y a un rapprochement à faire avec ce que Jésus enseigne quand il dit dans la nouvelle création, il n'y aura plus des relations mari-femme. Et on peut être tout étonné parce qu'on aurait pu penser que la relation mari-femme devrait être maintenue dans l'éternité, mais Seigneur Jésus, non. Et l'Apocalypse nous donne la raison. C'est parce que nous aurons une relation unique et absolue à Dieu. Et donc la relation mari-femme qui aujourd'hui est unique et exclusive n'aura plus de raison d'être, puisque la relation, si vous voulez, qui nous définit sera par rapport à Dieu. Et les uns à l'égard des autres, nous serons des frères et sœurs vivant de la même vie nouvelle que le Seigneur nous accordera. Voilà. Je ne sais pas si c'est une note négative pour certains. Parce que penser que les relations conjugales ne seront plus dans le ciel, mais elles seront remplacées par des relations infiniment plus élevées et plus intimes et qui apporteront beaucoup, beaucoup plus de réjouissance. Voilà, que le Seigneur nous aide à maintenir notre focus sur lui, que sa parole continue de nous nourrir, de nous motiver et que vraiment son amour continue de s'incarner en nous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse avec abondance.
Écoute, merci. Merci beaucoup.